Sur France Inter, l'actualité francophone à présent, ça s'appelle L'accent des autres et c'est présenté par le Belge Olivier Nederland.
Voici L'accent des autres, l'essentiel de l'actualité francophone de la semaine. Les médias francophones publics vous accompagnent pour un petit quart d'heure. France Inter, RFI, la Radio-Télévision Suisse, la RTBF et Radio-Canada. Plus de 90 000 Québécois ont manifesté leur intérêt pour devenir aide-soignant, donc dans le cadre d'un programme accéléré de formation qui en cherchait 10 000, ça veut dire donc 9 fois moins. Et cette formation express de 3 mois, Manon Glomaski, elle commençait cette semaine.
Il s'agit de pallier rapidement le manque de personnel des résidences pour aînés dépendants qui a été amplifié par la crise de la COVID-19. Le gouvernement offre donc des conditions exceptionnelles, une formation rémunérée, puis un emploi de 35 heures semaine, à 49 000 $ ou 32 000 euros bruts par année, assorti d'un fonds de pension. On souhaite en former 10 000, mais on a reçu donc 9 fois plus de candidatures, si bien que le gouvernement a pu choisir et en décevoir certains, puisqu'on a écarté tous ceux dont l'état de santé les met plus à risque d'une infection, obésité, asthme, diabète, etc.
Mais les cours de formation ont à peine commencé, Manon, que certains candidats abandonnent.
D'une part, il y a l'incontournable réalité que ce travail comporte parfois des quarts de travail de nuit et de fin de semaine. Et puis, les syndicats de la santé font valoir que les contrats de travail en vigueur ne permettent pas de garantir 35 heures semaine. La présidente du syndicat québécois des employés de service, Sylvie Nelson, rappelle qu'il y a des aides-soignants qui attendent depuis des années un travail à temps complet.
Comment vous voulez que nos gens acceptent ça, puis nos listes de rappel, que ça fait des années qu'ils sont sa liste de rappel, qui attendent d'avoir une job à temps complet? Qu'est-ce qu'ils vont faire, là? On a quand même des contrats de travail, des conventions collectives de signer.
Elle met en garde le gouvernement. Il n'est pas acceptable pour les syndiqués de créer une telle injustice.
Voilà, on va rester dans le domaine de la formation et de l'enseignement au Congo-Brazzaville cette fois, parce que depuis la mi-mars, plus de 50 000 enseignants du secteur privé sont à la maison, sans salaire, sans aide, à cause évidemment de l'épidémie de COVID-19 qui gagne encore du terrain. Ces enseignants sont obligés d'apprendre un deuxième métier parfois. Cela dit, un tiers d'entre eux est bien revenu à l'école début juin pour aider les enfants à préparer les examens d'État. Mais dans l'ensemble, ils vivent mal cette situation, comme l'a constaté Loïcia Martial pour RFI.
Florent Megzambama, un enseignant de littérature de 40 ans, pour faire face aux besoins de la famille, il suit son frère aîné qui a monté un garage depuis de longues années.
Très souvent, je suis au garage à partir de 8h jusqu'à 14h. Et là-bas, je suis comme un manœuvre puisque je ne suis pas du domaine. Le grand frère ne me fait que utiliser, donne ceci, donne telle pièce et je ne fais que exécuter à ce qu'il me dit. À la fin de la journée, il me paye au moins le déplacement à 2000 francs pour que ça puisse m'aider d'avoir au moins quelque chose.
La situation de Florent Megzan n'est pas différente de celle de son collègue Guy Elédé, qui vient d'être rappelé à l'école pour encadrer les élèves de son établissement, candidat au BEPC, brevet d'études du premier cycle, et au baccalauréat d'enseignement général.
Les promoteurs ne s'occupent même plus de nous. Et face à cette pandémie, les enseignants d'école privée, nous subissons tellement.
Julien Viry, de la CONAPEPCO, la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo.
Être pendant 3 mois sans revenu, mais c'est difficile à supporter. Aucune aide, c'est là où vraiment c'est une catastrophe.
Ce personnel enseignant du privé déplore le fait que sa situation en général n'est pas regardée de près par le gouvernement.
Parce que dans les privés, les enseignants sont très mal traités.
Le gouvernement a prévu d'aider les écoles privées, mais cette aide est assortie de plusieurs conditions difficiles. Les établissements qui n'ont pas de contrat formellement signé avec leur personnel ne seront pas pris en ligne de compte, tout comme ceux qui n'ont pas immatriculer leur personnel à la sécurité sociale.
Du côté de la Suisse, cette fois du changement pour les plus jeunes, on ne va plus tester systématiquement les enfants de moins de 12 ans qui présentent des symptômes. Et pourtant, Pierre-Anne Chauffat, les tests font partie de l'arsenal pour endiguer la maladie.
Dépister dès que possible tout nouveau cas, retracer les contacts de la personne atteinte et mettre en quarantaine ses proches, c'est la stratégie pour contenir tout nouveau foyer potentiel de coronavirus. Donc, vous avez raison, le test joue un rôle clé dans notre politique sanitaire.
Oui, un rôle clé, mais malgré ça, la Suisse ne va plus tester les enfants.
Eh bien, en tout cas, plus systématiquement, car vous l'imaginez bien, Olivier, avec les retours à la crèche et sur les bancs d'école depuis le 8 juin, avec le temps maussade, les rhumes en tout genre se sont multipliés et la proportion de jeunes enfants testés a fortement augmenté avec un taux ridiculement bas de résultats positifs. Les pédiatres du canton de Vaud ont été les premiers à revoir leurs recommandations, tenant compte notamment du caractère traumatisant du frottis nasal, comme l'explique leur président Claude Bertoncini.
C'est quand même un test qui est invasif et assez désagréable pour les enfants. Donc c'est clair que quand on a un taux de positif inférieur à 1%, ça ne justifie plus. C'est pour ça qu'on a adapté aussi nos recommandations.
Chef de clinique en infectiologie pédiatrique de l'hôpital universitaire de Genève, Arnaud L'Huillier valide ce choix, même s'il reste prudent.
Chaque enfant serait testé beaucoup plus fréquemment, surtout les enfants en bas âge, parce qu'ils ont tout le temps soit un rhume, soit un petit peu de fièvre, soit une toux. Donc ça semble assez cohérent, vu la situation actuelle, de limiter les tests, mais c'est quelque chose qui ne serait pas du tout applicable s'il devait y avoir de nouveau une épidémie de la même échelle qu'on a eue au mois de mars.
En clair, c'est le très faible taux d'infection actuel qui permet d'éviter ce moment désagréable aux enfants de moins de 12 ans présentant un symptôme isolé, comme un rhume ou un mal de gorge.
Oui, et donc Pierron, cette pratique restrictive va s'étendre à toute la Suisse ?
Oui, Olivier, compte tenu de la situation épidémique, c'est désormais justifié. L'Office fédéral de la santé publique va donc recommander de garder l'enfant malade à la maison et de tester plutôt les adultes de son entourage, ce qui paraît d'autant plus logique que les cas de Covid sont très rares chez les jeunes enfants.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En France, la crise du Covid frappe de plein fouet l'économie solidaire. Emmaüs, un réseau de recyclerie solidaire, réclame à son tour un plan d'urgence. Il faut dire que toutes ces structures sont restées fermées pendant plusieurs mois lors du confinement et elles craignent d'être les grandes oubliées dans l'attribution des aides à la relance économique. Sandy Dauphin s'est rendu pour France Inter à la collecterie de Montreuil, en région parisienne.
Vaisselle, poussette, chapeau, valise, on trouve de tout dans cet entrepôt labyrinthe. La collecterie de Montreuil récupère, trie, répare, vend, donne des tonnes d'objets qui auraient fini à la poubelle, surtout en cette période de déconfinement, sa directrice Séverine Bellec.
Les gens sont au rendez-vous, ils ont surtout beaucoup trié pendant ces deux mois. Ils apportent beaucoup de livres, beaucoup de jouets, ils ont trié les chambres des enfants, les placards. En général, nous, un jour d'apport, c'est moins d'une tonne. Là, c'est 3 à 4 tonnes.
Mais deux mois de fermeture pèsent lourd sur les finances de cette structure, également chantier d'insertion professionnelle.
On est 30 salariés. La trésorerie est très tendue, hein, comme dans beaucoup de ressourceries. Du coup, on a fait un prêt garanti par l'État pour pouvoir maintenir les salaires. Je ne sais pas si on pourra le rembourser. On ne sait pas si on sera encore là l'année prochaine.
Or, le réseau national des ressourceries s'estime oublié par Bercy, son vice-président Martin Bobel.
L'ADEME, qui est l'agence de l'environnement de l'État, préparer une mesure d'urgence pour surtout nous permettre de passer la crise correctement. Mais Bercy, c'est-à-dire le ministère des Finances, a bloqué cette aide. Quand on écoute le discours d'Emmanuel Macron dimanche dernier, qui fait appel à une relance sociale et solidaire, on attend des actes.
Au ministère de la Transition écologique, on affirme au contraire que cet arbitrage, 10 millions d'euros, n'a pas été tranché.
Voilà donc pour ce reportage de Sandy Dauphin pour France Inter. Nous allons enfin traverser la frontière franco-belge pour refermer l'accent des autres. Fini les blocs de béton sur les routes depuis le début de la semaine. Fini les contrôles de police et les amendes. Les frontaliers peuvent maintenant passer d'un côté à l'autre sans devoir se justifier. C'est la fin d'une situation parfois kafkaïenne. À Herceau, par exemple, dans la commune belge de Moucron, la frontière passe au milieu d'une rue. Et il était temps qu'elle rouvre, comme a pu le constater Denis van der Brugge pour la RTBF.
Ça faisait trois mois qu'il n'avait plus traversé sa rue. Alors ce matin, Ludo, citoyen français, est enfin allé faire le plein à la station-service belge, juste en face de chez lui.
On pouvait plus y aller, sous peine d'une amende de 250 euros, donc ça fait cher le plein, quoi. Ça m'a un peu bloqué pendant deux mois et demi, ouais, clairement.
La réouverture de la frontière, c'est la fin d'une situation absurde dans cette rue franco-belge, et Carole a bien l'intention d'en profiter pour remettre les pieds en France.
Ah oui, certainement.
Qu'est-ce que vous allez faire ?
Nos courses et nos amis et nos habitudes.
Des habitudes que beaucoup ont perdues en trois mois. Derrière la vitre de son tabac shop, Mirza voit à nouveau passer les plaques françaises, mais pas encore de bousculade à son comptoir.
Ça passe beaucoup de Français, mais là maintenant, vous avez là, pas beaucoup de gens. Pour moi, ce ne sera pas facile d'attraper les clients.
En face, Michel espère faire revenir les clients avec une bonne odeur de frites. Il relance son établissement, le sourire aux lèvres.
Oui, on est content que c'est enfin rouvert.
Ça fait 38 ans qu'on habite la rue, on n'avait jamais vu ça. Hein. On a fait 20 ans café-brasserie, 20 ans que je suis à la friterie. J'avais jamais vu une rue aussi calme.
Une rue à cheval entre deux pays qui retrouve aujourd'hui un peu de son agitation habituelle.
La frontière franco-belge rouverte donc depuis lundi dernier, comme ailleurs, mais pas partout. C'est encore un peu à la carte en ce moment en Europe. Merci à tous. C'était l'accent des autres, l'actualité francophone de la semaine avec les médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. Excellent week-end et rendez-vous pour le dernier numéro de la saison la semaine prochaine à la même heure.